la violence et par effectivement l'état psychiatrique des prisonniers et parmi les personnes dans la rue. Il y a énormément de personnes dont l'état psychiatrique pose question.
Hein. Tu as totalement raison, et on en parlait encore il y a quelques semaines, parce que les Républicains ont sorti un vaste plan pour lutter, pour ramener la sécurité en France. L'une des propositions d'Éric Ciotti, c'était des courtes peines de prison, notamment d'une semaine, voilà, des courtes peines, mais il n'y a pas la place. Oui. Donc c'est totalement... Aujourd'hui, les prisons sont saturées.
Merci en tout cas Vincent Le Dinet d'avoir été avec nous. Voilà, on a entendu votre émotion bien sûr au lendemain de ce drame avec deux agents pénitentiaires tués à un péage dans l'Eure. Rémi, on termine avec un message et le résultat de notre consultation sur le compte Twitter d'Estelle Midi.
Beaucoup de messages qui vont dans le même sens. Allez, celui de Greg par exemple qui nous dit: vous n'avez-vous pas l'impression que beaucoup de sujets évoqués dans vos émissions se rejoignent et nous amènent à un constat: l'État est défaillant dans toutes ses fonctions régaliennes depuis des décennies. Le laxisme, le manque de courage de nos dirigeants politiques nous ont conduits là où nous sommes aujourd'hui.
Et le résultat de notre sondage sur le compte Twitter d'Estelle Midi: l'État est-il dépassé par l'ultra-violence?
Alors là, c'est assez rare qu'on ait ce type de score, parce que là, c'est basique. Enfin, c'est 95% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux. Il n'y a pas de nuance. Oui, l'État est dépassé.
RMC, midi 15h, Estelle Midi. RMC, pour réagir en direct, 3216, touche 1.
Touche 1.
Pas le temps d'écouter la radio aujourd'hui? Sur RMC.
Sur RMC. Vous avez toute la nuit.
Rediff. RMC, midi 15h, Estelle Midi.
Estelle Denis.
Et tout de suite, on va s'intéresser à la fermeture du jour. C'est celle de la patinoire de Boulogne-Billancourt en région parisienne. Alors qu'une pétition pour la sauvegarde du lieu a déjà recueilli plusieurs milliers de signatures, eh bien, la mairie de Boulogne-Billancourt souhaite, elle, fermer la patinoire pour des raisons économiques et écologiques. Et ce n'est pas un cas isolé, Rémi. Nos patinoires sont en danger.
Ouais, exemple avec la patinoire de Bourgueil. Nous sommes en Indre-et-Loire, un peu moins de 4000 habitants dans cette commune. Pourquoi je vous parle de cette patinoire? Parce que c'est symptomatique de ce qui se passe en de nombreux endroits en France. Un équipement qui vieillit, des coûts de rénovation élevés et surtout, avec l'explosion des prix de l'énergie, une facture dantesque. Selon la municipalité, à elle seule, la patinoire de Bourgueil représentait 44% des dépenses d'électricité de l'ensemble des bâtiments communaux. La décision est tombée en février dernier. La patinoire a définitivement fermé ses portes le 20 avril dernier avant d'être transformée en un lieu sportif et social. Au grand dam, on imagine des clubs de sport de glace locaux. S'ils comptaient se replier sur la patinoire de Jouer-les-Tours, qui est à 40 minutes en voiture, c'est ce qu'on leur avait dit au départ, ça ne sera même plus possible. Pourquoi? Parce que la patinoire de Jouer-les-Tours vient de fermer. En tout cas, elle va fermer dans les jours qui viennent. Ce sera le 2 juin prochain. Bourgueil, Jouer-les-Tours, mais aussi, et par exemple, Alençon, Laon ou encore Castres, la liste des patinoires qui ferment s'allonge quand, pour faire face aux dépenses, certaines structures ne ferment pas durant plusieurs mois, durant l'année. Voilà, certaines municipalités, en essayant de ne pas fermer la patinoire, aujourd'hui, il y a des patinoires qui sont fermées durant 6 mois de l'année.
Et il y a 200 patinoires en France, mais c'est vrai que voilà, le rythme des fermetures s'accélère. Est-ce qu'il faut en finir avec les patinoires pour des raisons économiques ou écologiques? Mathilde Caillard.
Alors moi déjà, je ne sais pas faire de patins à glace, mais je sais que, autour de moi en tout cas, ma sœur aime beaucoup. J'y allais beaucoup aussi avec elle en famille, je m'accrochais sur le bord et j'étais autour. Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est quand même un espace hyper important pour les familles, les jeunes, notamment dans les zones périurbaines, etc. où c'est une activité qui fait du bien, qui fait plaisir. Et comme quand c'était patinoire municipale, mais c'est aussi le cas pour les piscines municipales, ce sont donc des services publics payés, financés par les collectivités pour le bonheur de toutes et tous, des plus petits et des plus grands. Je pense que faisons attention à pas utiliser justement des exemples comme ça, les patinoires ou même les piscines municipales, comme chose pour faire détester l'écologie par les gens, en leur disant, parce qu'en fait il y a quand même des priorités. Effectivement, la hausse des prix de l'énergie et de l'électricité font que les piscines municipales, les patinoires, beaucoup de choses comme ça sont menacées de fermeture. Mais interrogeons-nous pourquoi. En fait, il y a cette hausse des prix de l'électricité. Comment on pourrait la réguler? Par exemple, en ne sortant pas les collectivités des tarifs réglementés de vente de l'électricité, tout simplement, pour pas avoir des factures qui augmentent comme ça.
Après, ça coûte cher quand même. De toute façon,
ça coûte cher quand même. Mais en fait, il faudra faire des choix, que ce soit en termes de ressources ou en termes même d'énergie. Il va falloir faire des choix aussi pour répondre à la crise écologique. Et par exemple, moi, il y a des choses que j'ai envie de voir interdire plus que les patinoires. Par exemple, les patinoires, en fait, pour moi, l'énergie et les ressources, on doit les concentrer pour tout ce qui fait du bien-être pour les populations, pour les services publics, qui est accessible à toutes et tous. Après, il y a des choses comme, par exemple...
En fait, je ne veux pas supprimer les bâtiments, je préférerais supprimer autre chose, ce serait...
Alors, supprimer autre chose, ou même déjà, rénover la rénovation thermique des bâtiments, par exemple, en termes d'impact écologique, est beaucoup plus important que la fermeture des patinoires.
Ça coûte cher.
Ça coûte cher, la rénovation thermique des bâtiments. Oui, mais ça fait économiser énormément d'argent. en termes de factures, etc.
Ça, finalement.
Ah mais si, dans les bâtiments publics.
Les exemples, tu vois, tout ce qui
est fait en
Géorgie, aux États-Unis, c'est le vrai exemple qu'on a dans un pays développé, c'est l'état de la Géorgie, et en fait, c'est très décevant en fait. Il y avait un grand plan de rénovation thermique et les économies sont finalement pas si importantes que ça.
En fait, ça dépend d'où tu pars.
Non mais oui, et ça dépend aussi, il faut voir aussi plus le bâti va vieillir et plus va être enfin est-ce qu'il y a la rénovation thermique pour les vagues de froid mais pour les vagues de chaleur aussi. Donc en fait, enfin, il y a plein de choses où, de toute façon en vrai c'est efficace. Et aussi par exemple ce qu'on pourrait interdire, moi je préférerais par exemple qu'on interdise les jets privés. C'est utilisé par une ultra minorité de la population.
Minorité justement,
par une minorité.
Ça ne représente rien.
Alors non, quand tu le rapportes au nombre d'utilisateurs, et en plus c'est en expansion. Ah bah oui, c'est en progression.
Fred, je sais que dès qu'il y a le mot interdiction, de toute façon ça te hérisse. Tu allais faire du patin aussi quand tu étais petit, par exemple.
Moi, je suis très bon en patin à glace.
Ah bon?
Très bon patin roulette, pas roller. Moi, je suis patin roulette, moi.
Oui, très bien.
Et j'adore le patin à glace. Oui. Et je reconnais toute l'intelligence de Mathilde en disant oui, ce sont des lieux sociaux très importants.
Oui. Bah oui.
C'est-à-dire que finalement, on peut supprimer tout. Donc, en général,
il y a 30 ans, on allait draguer à la patinoire.
Mais oui.
On pourrait encore aujourd'hui, hein, pourquoi pas.
Tu tombais sur les garçons.
Ben non, mais tu te la jouais un peu en faisant tes petits virages en arrière et tout. Mais voilà, mais bien sûr, c'est des souvenirs qu'on a.
Vite, attends dans la boum, on roule.
Ben bien sûr.
Ouais, alors ce sont des lieux. À un moment. Et je comprends ce que tu veux dire, on met tout sous le dos de l'écologie. En fait, maintenant, quand on veut faire des économies et faire des coupes.
Sachant qu'elle a bon dos.
Boulogne, c'est une mairie de droite, hein. c'est pas les écolos.
Pires. Ah, les pires.
Non, mais le dire, c'est pas eux.
Ça doit être écolo, c'est ce qu'il y a de pire.
Donc, je sais pas, mais en tout cas.
Donc, moi, je propose un truc, c'est qu'on arrête de respirer. Parce que vous savez que quand on respire, on produit
du CO2. Non, mais on peut pas tout relativiser.
Nous sommes très carbonés, nous, les êtres humains.
Non, mais
il faut arrêter parce que.
Caricature.
Non, mais il y a quand même un consensus scientifique.
Non, mais après, on va se dire, on va fermer la patinoire. Ah, ouais, mais les jeunes, ils glandent toute la journée, qu'est-ce qu'ils font? Non, ce sont des lieux très important. Donc, et moi, je peux.
Non, mais je pense qu'il n'y a aucun écologiste qui a demandé la fermeture des patinoires, par exemple.
Ouais, ça coûte une fortune.
Ça n'existe pas.
Oui, pourquoi les mairies
d'accord,
ferment.
Mais c'est aussi pour le bien-être des gens.
Mais ça coûte.
Supprimons tout ce qui coûte.
Mais non, mais il y a une réalité. Je te prends l'exemple. Je vous ai pris l'exemple très révélateur de Bourgueil. 44% de la facture d'électricité des bâtiments communaux,
c'est
la seule
patinoire.
Oui, mais c'est parce qu'il y a un problème aussi au niveau du marché de l'électricité.
Je te garde au chaud, Thierry. Parce que je voudrais qu'on.
Enfin, la patinoire.
C'est une blague sur les lacs, je garde au chaud. On va prendre Bertrand en ligne, qui nous appelle des Yvelines, qui est chef d'entreprise dans le bâtiment et qui voulait réagir sur la fermeture des patinoires. Bonjour Bertrand.
Bonjour Estelle.
Merci beaucoup d'être avec nous. Pour ou contre la fermeture des patinoires?
Ah bah, je suis complètement contre la fermeture des patinoires, et notamment celle de Boulogne, évidemment.
Pourquoi? Parce que vous avez patiné là-bas?
Alors moi, j'habite maintenant dans les Yvelines, mais je suis né à Boulogne, et j'ai grandi à Boulogne, et j'entendais là quelqu'un qui disait c'est les équipements municipaux, bah ouais, j'ai appris à patiner parce que en maternelle, l'école municipale m'emmenait à la patinoire de Boulogne, donc c'est là que j'ai appris à patiner avec mes amis. Ensuite, mes parents m'ont inscrit dans le club de hockey municipal. Donc j'ai passé ma vie sur des patins c'est hyper formateur. Alors là on parle du sport. Et si je parle de la patinoire, c'est ce que vous disiez, Stella. Je faisais du hockey, mais ensuite le week-end j'allais patiner avec des amis. Et oui, je rencontrais et je faisais le malin parce que moi je patinais bien puisque je faisais du hockey et je faisais le malin pour séduire les filles. Et évidemment la patinoire.
Et aujourd'hui, vous dites finalement, la fermeture de cette patinoire, c'est aussi des souvenirs, voilà, pour tous ceux qui ont effectivement un peu plus de 30 ans, mais c'est aussi des enfants qui n'apprendront pas à patiner, quoi. Parce que c'est vrai, le patin, c'est du sport, ça plaît.
En tout cas, c'est hyper brutal. Donc là, ouais, il y a un peu d'affect. Ça, c'est pour de mon point de vue, mais je regarde d'ailleurs aujourd'hui. J'en parlais ce matin avec un collègue qui me disait que ça revenait à la mode chez les jeunes. En fait, moi, je parlais de ce que j'ai vécu il y a 30 ans, mais en fait, et je l'ai vu il y a encore pas si longtemps que ça à la patinoire de Boulogne. Il y a de la queue devant la patinoire le samedi soir. Moi, quand je partais d'un match, je voyais des jeunes d'aujourd'hui qui vont à la patinoire. Donc au-delà de ce que j'ai vu moi dans ma pratique de sportif. La patinoire, c'est ce que certains ont dit là, c'est un espace de vie collective dans la ville. Ouais. C'est un peu comme la piscine d'une certaine manière, et ça s'adresse à un super grand nombre. Il y a 65 000 patineurs qui vont à la patinoire de Boulogne chaque année. Et je trouve ça sidérant de dire d'un coup on ferme pour de bonnes ou de mauvaises raisons. À la limite, ça n'est pas la question. C'est déjà de regarder la réalité de l'usage de l'équipement municipal.
Oui, et puis après, il y a aussi autre chose, c'est que la patinoire, ça coûte pas très cher. C'est à peu près 5 euros l'entrée. C'est moins cher qu'une place de ciné. Ah ben ouais, voilà, c'est un peu comme la piscine municipale. Ça reste encore des, ça reste en fait des loisirs et du sport accessible à tous, quoi. Et à un moment, qu'est-ce qui va se passer? On n'aura plus que des salles de sport qui coûtent 1000 pour aller
trouver
de la fonte.
Il y a plein d'enfants en France, par exemple, qui savent pas nager. Et en fait, les piscines municipales, c'est complètement important, même dans l'apprentissage, le développement, l'éducation. S'il n'y a pas ces espaces-là,
on commence à supprimer des patinoires. Après, on supprimera les piscines.
Mais ça,
c'est la suite. Logique. Merci Bertrand, en tout cas, d'avoir été avec nous. Thierry, vous n'êtes pas sport du tout. Peut-être un petit peu patiné quand même.
Jamais. Peut-être une fois, mais je me suis cassé la gueule, donc j'ai renoncé. Voilà. Donc, ce n'est pas mon truc. Mais en revanche, ce que vous venez de dire est très important parce que n'oublions pas, il y a une partie des gens en France qui ne vont jamais en vacances. Et que quand les parents emmènent les enfants à la patinoire, à la piscine, c'est une sortie. C'est quelque chose qui permet de s'aérer un peu. Donc, je pense qu'il faut faire attention, effectivement, à cette interdiction. Et encore une fois, cette perception qu'on a d'une écologie punitive en disant « Attention, avec les écolos, on va tout fermer », cette perception, elle existe. En tout cas, elle est perceptible sur ce genre de dossier.
Oui, ça ne veut pas dire que c'est les demandes portées par les écolos.
Exactement, tu as raison de dire.
Mais le problème...
Pour ne pas faire de l'écologie.
Ça occasionne des débats sans fin. Parce qu'il y a des gens qui vont vous dire on peut faire des patinoires en matière plastique, mais d'autres gens vous diront qu'il y a des microplastiques, donc c'est plus polluant que la vraie patinoire. Il y en a d'autres qui vous diront qu'il faut faire du roller plutôt que de la patinoire. Enfin, c'est des débats sans fin. Je pense qu'effectivement, les dossiers les plus importants, c'est le logement, la rénovation thermique, c'est les transports en commun, mais ce sont des milliards et des milliards. Là, on prend le problème par le petit bout de la lorgnette, et j'ai l'impression qu'on fait des exemples.
Oui, c'est aussi ce qui intéresse les gens qui vont patiner tous les week-ends, que leur patinoire va être fermée, qui fait du jour au lendemain.
Mais bien sûr.
Après, la rénovation thermique, c'est aussi tout le monde. Les gens qui n'arrivent pas à se chauffer l'hiver, c'est très concret.
Justement, la rénovation thermique et le travail sur l'énergie, vous disiez que ça coûte très très cher.
Mais
peut-être qu'il faut réfléchir aussi à des façons de fournir en énergie ces patinoires ou les bâtiments municipaux d'une autre manière que ce qu'on le fait aujourd'hui, de la façon dont on le fait aujourd'hui, avec des pompes à chaleur, avec des systèmes de panneaux solaires ou d'autres moyens qui permettent en tout cas de réduire la facture énergétique, parce que c'est aussi un problème de facture pour les communes.
Évidemment. C'est d'abord des réseaux économiques. Et on se cache derrière l'écologie pour.
C'est ça.
À Boulogne, la mairie indique que la remise en glace, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont refait la patinoire, la glace de la patinoire, l'année dernière, en 2023, c'était 8 millions de litres d'eau qu'il a fallu. Sans compter, mais ce qui coûte aujourd'hui, et on l'a vu aussi avec les piscines, le coût de l'électricité. Ça coûte hyper cher en électricité à chauffer une piscine ou à maintenir la glace sur une patinoire. Et avec l'explosion des coûts de l'énergie...
Sauf qu'on ne peut pas tout interdire, et surtout pas ce qui fait le loisir de certains Français,
Les contribuables doivent accepter de payer dans ce cas-là, dans les impôts locaux.
Le fléchage de l'argent public.
Alors, on est avec Camille, qui nous appelle de Plachy-Buillon, et Camille, elle est ancienne patineuse. Bonjour Camille.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Merci de m'accueillir sur le plateau, c'est gentil, merci beaucoup.
Et j'imagine Camille que vous, en tant qu'ancienne patineuse, évidemment, ça vous fait de la peine, quoi.
Oui, bien sûr, ça me fait de la peine. Moi, j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence à la patinoire de Compiègne, dans l'Oise. Ça a été les plus belles années de ma vie, hein. Clairement, moi, le sport a toujours été ancré en moi et dans mes valeurs, et j'aimerais aussi les transmettre à mes enfants. Et c'est vrai que du coup, ça m'attriste de me dire que peut-être je ne pourrais pas emmener mes enfants patiner et leur faire découvrir ma passion. Je pense aussi à mes anciennes amies patineuses et puis aussi à mes anciennes coaches qui, elles, peut-être perdront un jour leur emploi. Il faut penser à ça. Oui, il y a beaucoup de personnes qui travaillent au sein des patinoires, les clubs aussi, des bénévoles, des associations. C'est tout ça qui est aussi remis en cause au-delà de l'écologie. Donc oui, il y a beaucoup l'affect qui entre dans mon quand j'entends ça. C'est vrai que ça me fait beaucoup de peine. Et puis aussi, après, j'ai patiné à Colombes, et à Colombes,
ça a fermé.
A fermé.
La patinoire de Philippe Candeloro.
Ça fait très mal au cœur. Moi, j'ai passé aussi de très belles années là-bas. J'ai fait du ballet sur glace aussi avec donc sa femme, Olivia. Et ça fait de la peine de voir tout ça. Et je me dis que oui, quand vous dites que les jeunes maintenant reviennent un peu dans les patinoires, mais c'est génial parce que au lieu de les voir à faire autre chose, aller dans boîte de nuit, ils reviennent dans les patinoires, ils passent super moment. C'est top, et c'est vraiment dommage parce que, comme le disait sur votre plateau un chroniqueur, il y a d'autres sujets au niveau de l'écologie à voir concernant le logement, etc., avant de s'occuper de ce genre de loisirs. Il reste plus grand chose, alors qu'il faudrait peut-être les laisser en place et trouver d'autres solutions. C'était mon petit mot, j'avais envie de partager avec vous.
Votre petit coup de gueule. Et merci beaucoup, en tout cas, Camille, d'avoir été avec nous. On sent la passion, justement, pour le patin à glace. En tout cas, après, on ne viendra pas se plaindre hein, quand on n'aura plus de médailles aux Jeux Olympiques d'hiver.
Ah, oui.
Non, mais là, on ne viendra pas. Voilà, il ne faudra plus se plaindre. Si on n'a pas de patinoire, c'est sûr que là, on ne risque pas d'avoir des médailles d'or en patin à glace. Rémi, on termine avec des messages et le résultat de notre consultation sur Twitter.
Ouais, ce message de Jean-Philippe qui nous dit « Moi aussi, j'ai fréquenté la patinoire qui était près de chez moi. Et chez moi aussi, elle a fermé. J'en suis triste. Maintenant, il faut accepter une réalité avec l'explosion des prix de l'énergie. Et il faut que les habitants l'acceptent. Et s'ils veulent conserver leur patinoire, il va falloir qu'ils payent beaucoup plus cher en impôts locaux. »
Exactement. Faut-il en finir avec les patinoires? C'était la question qu'on vous a posée sur le compte Twitter d'Estelle Midi.
Allez, c'est le nom qui l'emporte. Ça va donner un peu du baume au cœur à tous ceux qui travaillent dans les patinoires. 73% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux estiment qu'il ne faut pas en finir avec les patinoires.
RMC, midi 15h, Estelle Midi. Tous les matins, dès 5h, RMC vous réveille en douceur ou accompagne la fin de votre nuit.
C'est Charles Matin.
De l'économie, du sport, du rire et bien sûr toute l'actualité.
À vos réveils, RMC Charles Matin, du lundi au vendredi, de 5h à 6h30.
Tous les jours dès 6h, Charles Matin est aussi à la télé sur RMC Story, canal 23 de la TNT.
Si un jour vous ne captez pas RMC, pas d'inquiétude.
RMC est aussi en direct sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
Ce week-end, à l'Hippodrome d'Auteuil, c'est le Grand Steeplechase de Paris avec RMC. Assistez à la plus spectaculaire des courses d'obstacles de l'année. Prenez vite vos places sur francegallo-live.com. Le Grand Steeplechase de Paris, ce week-end avec RMC. À chaque obstacle, c'est votre cœur qui bondira. RMC au 32-16, 45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16, 75 centimes par envoi, plus prix du SMS. RMC.
Et vous, quel est votre lien avec RMC?
On peut vous appeler, on peut discuter. Peu importe ce qu'on a à dire, hein, d'accord, pas d'accord, tant que c'est dans le respect. Hein. Enfin, moi, j'ai jamais pu ne pas passer à l'antenne, quoi.
De 5h à minuit, le standard RMC n'attend que vous au 32-16.
RMC, bien plus qu'une radio. Trop pressé aujourd'hui?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff. RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et aujourd'hui, Frédéric, vous allez nous faire changer de chaudière. Voilà, vous allez nous faire remplacer notre bonne vieille chaudière au fioul ou à gaz par un réacteur nucléaire.
Oui.
On plaisante, mais à peine, Frédéric, puisqu'il y a des technologies qui existent aujourd'hui pour se chauffer à l'énergie nucléaire.
Oui, alors évidemment...
Je peux avoir un petit réacteur nucléaire à côté de mon chauffe-eau.
Oui, presque. Le but, c'est quand même pas d'installer une petite usine de Flamanville au fond de son jardin. Je vous parlais aussi du chauffage urbain. Vous savez, on dit toujours le chauffage de ville, ça chauffe les écoles, les bâtiments administratifs, mais aussi des immeubles d'habitation hein, qui se connectent au gaz de ville et là ça chauffe. Et ça fait un moment que ce chauffage, on est passé du fioul, du charbon au gaz, à la biomasse aussi qu'on brûle, mais ça continue à créer beaucoup de CO2. Et donc certains se disent, mais pourquoi on n'utiliserait pas le nucléaire et notamment des petits réacteurs? Le principe, vous savez, du nucléaire.
C'est quoi un petit réacteur?
C'est
un petit réacteur comme une valise.
Oui, c'est une petite valise, mais alors elle va être dans un bâtiment de la taille d'un court de tennis à peu près.
Ah oui, quand même, oui,
voilà, et ce sera enfoui. Le principe, vous savez, la fusion nucléaire ou la fission nucléaire, on met de l'uranium, on met ça dans une piscine pour que ça refroidisse, c'est une réaction chimique, ça dégage de la chaleur, cette vapeur d'eau, c'est elle qui va faire tourner ensuite les turbines et pour produire de l'électricité.
D'accord.
Et bien là, dans ce cas-là, alors on appelle ça des small modular reactors, donc c'est ces petits réacteurs, eux, on ne va pas aller jusqu'à l'électricité, on va juste garder la chaleur. C'est-à-dire la fusion nucléaire va créer de la chaleur et c'est cette chaleur-là qu'on va injecter dans les réseaux urbains, donc à partir de ces petits réacteurs modulaires.
Mais est-ce que ça va nous faire baisser la facture d'électricité? Parce que c'est ça un petit peu l'enjeu. Hein,
oui, alors l'enjeu. Alors déjà, en fabrication, donc sur nos impôts et tout ça, on va le sentir, puisque en gros, un EPR tel que celui que doit visiter a priori Emmanuel Macron aujourd'hui, c'est plusieurs milliards. Hein. La facture était à 3 milliards, elle passait à 19 milliards.
Ça va baisser,
mais
très bien.
Le SMR, on est en quelques dizaines de millions d'euros. Donc ça veut dire, et ça peut aider à chauffer 12 000 personnes voilà, par petit. Donc on imagine pour une ville voilà, de 100 000 habitants, ben on va en acheter une petite dizaines, on a pour 100 millions d'euros et on va chauffer tout ça. Donc ça, c'est au niveau des impôts, ce sera moins cher. Mais surtout, comme c'est de l'énergie décarbonée, etc., on va récupérer
à une facture de chauffage qui peut baisser de 40%.
Mais c'est très bien ça.
Donc c'est plutôt pas mal.
Alors le truc c'est que vous allez avoir quand même plein de personnes qui vont pas avoir forcément envie d'avoir un réacteur nucléaire au pied de leur immeuble.
Voilà, et c'est là que la technologie entre en lice, parce que justement aujourd'hui les grandes centrales de chauffage urbain, elles sont pas au plein cœur des villes, en général elles sont un peu à l'extérieur, elles sont à 10-20 km. Et bien c'est là que, alors c'est un Français hein, qui est en train de travailler là-dessus, qui s'appelle Calogena, qui veulent installer leur petit réacteur. Alors ça se compose comment? Alors on appelle ça un crayon, c'est le combustible, c'est un crayon d'uranium qu'on plonge. Alors la piscine fait le bloc fait 1 mètre cube.
D'accord.
On plonge ça dans une petite piscine et l'ensemble c'est dans un bunker enfoui. C'est à la taille d'un terrain de tennis, donc déjà c'est facile à sécuriser. Voilà, parce que faut quand même pas, n'importe qui ne doit pas pouvoir y accéder. Et puis derrière, c'est sécurisé aussi au niveau de la réaction chimique, enfin tout ce qui peut.
Et ça utilise des déchets, je crois, en plus.
Et ça utilise des déchets. En plus, il y a du combustible qu'on peut réutiliser. Et puis en plus, ce qui est pratique, c'est que le combustible existe déjà. Toute la chaîne existe, la chaîne de valeur. Même le recyclage des déchets, ça existe aujourd'hui. Donc il suffit de le récupérer. Donc voilà. Donc on est à horizon 2030. Mais je pense que le gros, parce qu'il y a des certifications.
C'est difficile demain, 2030.
Hein. Oui, mais c'est les certifications.
Oui, produit en série en 2040 ensuite. Ouais. Parce que
mais le gros souci, c'est vraiment l'acceptation. Est-ce qu'il y a des maires de ville qui sont prêts à dire.
Moins 40% sur ma facture, je prends tout de suite.
Voilà, c'est l'argument qu'il faudra avoir avec le côté propre décarboné.
Merci beaucoup, Frédéric Simotel. On n'arrête pas le progrès tous les jours, 12h50 dans Estelle Midi.
RMC, 12h15. Estelle Midi. Tous les matins, réveillez-vous avec RMC. À 4h30, votre premier journal. 5h, 6h30, Charles Matin. 6h30, 9h, Apolline Matin et le face-à-face à 8h30 avec un invité qui fait l'actualité. RMC, le matin. Le réflexe info. Réagissez sur le réseau social X avec le hashtag RMC Live. RMC Escrime. De demain à dimanche, c'est le Challenge Monal. La Coupe du Monde d'épée hommes accueille les stars mondiales de l'escrime à Saint-Maur-des-Fossés. Encouragez le champion olympique Romain Canon et ses partenaires de l'équipe de France pour la dernière épreuve sélective avant les Jeux Olympiques. Info et résa sur ffescrime.fr. Le Challenge Monal. De demain à dimanche avec RMC. Tout RMC en podcast
sur l'appli RMC. Sur RMC, la nuit, RMC, c'est le meilleur de la journée. Rediff.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Et on va poursuivre Estelle Midi avec la préconisation du jour, et c'est celle de la Cour des comptes qui souhaiterait que les salariés ne passent plus par la case médecin pour des arrêts maladie de courte durée. L'idée est de désengorger les cabinets des généralistes. Concrètement, Rémi, ça se passerait comment ? C'est-à-dire que j'ai mal à la gorge et je me dis, tiens, je vais prendre une petite semaine.
Alors, pas tout à fait. Pas tout à fait. Je t'explique.
Voilà.
Tu pourrais le faire. Si, tu pourrais le faire, mais à tes frais.
Pas une semaine.
Ah bah, ça m'arrange
pas. La Cour des comptes s'inspire, en fait, de ce qui se passe au Québec et en Grande-Bretagne. Outre-Manche, prenons le cas britannique, le dispositif existe déjà depuis 1985. La procédure d'auto-certification pour les arrêts de moins de 7 jours, incluant les week-ends, est devenue là-bas une routine. C'est un formulaire officiel qui est à remplir par le salarié, où tu fournis notamment des motifs médicaux de ton absence. Donc, par exemple, tu dis, voilà, j'ai des problèmes de dos, je suis complètement bloqué, je pense qu'il faut que je m'arrête 3 jours, bien. Et ça leur permet donc de te déclarer toi-même en arrêt de travail, plutôt que de consulter un médecin spécifiquement pour obtenir un certificat signé. L'idée, évidemment, on l'imagine, c'est de libérer du temps à ces médecins pour qu'ils se concentrent à des cas plus complexes. Mais attention, c'est là la subtilité, Estelle, si tu pensais pouvoir prendre 2 jours par-ci, 3 jours par-là, tranquillement, pour éviter les abus et encadrer ces arrêts de courte durée non justifiés par un avis médical, les sages de la Cour des comptes estiment qu'il faudrait établir des jours de carence dits d'ordre public. Pourquoi ordre public ? Parce que aujourd'hui, on le sait, dans le public, il y a un jour de carence. Le premier jour, vous n'êtes pas rémunéré.
D'accord.
Dans le privé, la règle, c'est 3 jours de carence. 3 premiers jours d'arrêt maladie, vous n'êtes pas rémunéré. Dans les faits, aujourd'hui, 60% des entreprises du privé rémunèrent leurs salariés dès le premier jour d'absence. Mais en Grande-Bretagne, les 3 premiers jours d'arrêt ne sont pas payés. Et c'est ce type de modèle dont s'inspire la Cour des comptes. C'est-à-dire que désormais, vous pourriez vous déclarer en arrêt maladie vous-même, 2, 3, 4 jours, mais attention, les 3 premiers jours, pas payés.
Enfin, franchement, quand vous prenez un arrêt maladie déjà de plus de 3 jours, c'est que vous avez vraiment mal. Enfin, je sais pas. Enfin, moi, j'ai jamais pris un arrêt maladie de plus d'une journée. Il faut vraiment que je sois malade, quoi. Si tu prends une semaine d'arrêt maladie, c'est que tu vas vraiment pas bien, quoi, et qu'a priori tu vas aller consulter un médecin.
Et si tu, tu dis, bah, je ne prends qu'une journée parce que je me sens faiblard aujourd'hui, ça peut dissuader si tu sais que tu n'es pas payé.
Exactement. Alors, s'auto-déclarer, en fait, l'auto-déclaration des arrêts maladie, vous êtes pour, vous êtes contre, Thierry Moreau?
On voit bien que c'est un moyen de désengorger une fois de plus les médecins généralistes qui ne sont pas assez nombreux et il y a des problèmes pour obtenir un rendez-vous. J'ai entendu encore ce matin 12 jours pour obtenir un rendez-vous et même en urgence, on arrive souvent à ne pas descendre en dessous de 3 jours. Donc quand on est malade en urgence et qu'on veut voir un médecin, 3 jours dans certaines régions. Donc c'est compliqué. On sait de toute façon que d'ici 2030, on n'aura pas assez de médecins. Quoi qu'il arrive, parce qu'on a beau remettre des gens en formation, mettre de l'argent dans le secteur, etc., d'ici 2030, on aura une pénurie de médecins. Est-ce que c'est la bonne solution? J'ai l'impression qu'on tombe à nouveau sur le médecin généraliste, parce qu'on sanctionne ceux qui donnent trop d'arrêts, et là, on va favoriser des arrêts, je dirais,
donc qu'on
va faire soi-même, premièrement. Deuxièmement, sur la masse des gens qui vont s'auto-médiquer en s'auto-arrêtant, il y aura probablement des gens qui seront atteints de pathologies plus lourdes qu'un simple, une simple gastro. Une simple gastro, ça peut être rien. Effectivement, dans 99,9999% des cas, ça peut être aussi un truc très grave. Et le médecin, il sert à ça aussi.
Oui, mais si ça dure, a priori, il ira voir le médecin, de toute façon.
Oui. D'accord. Oui. Enfin, sauf que oui, on peut aller jusqu'à une semaine.
Il y aura plus de place chez le médecin parce qu'il y aura.
Si c'est une semaine et que t'as très très mal au ventre, franchement, t'attends pas une semaine pour aller voir le médecin. Si c'est une semaine où t'as un tout petit peu mal, bah là, de toute façon, ça veut dire que c'est un faux arrêt maladie. Donc.
Et le dernier point, s'inspirer du système anglais, la NHS, le National Health Service anglais, est au bord du gouffre. C'est une catastrophe le système de santé anglais. Est-ce qu'il faut aller prendre des exemples dans le système de santé anglais? Je ne suis pas certain. Voilà.
C'était aussi québécois. L'exemple, je crois.
Fred Hermel.
L'exemple qui m'arrangeait sur l'Angleterre donné par Rémi.
Fred Hermel, est-ce que vous faites confiance aux Français pour s'auto-certifier, c'est-à-dire s'auto-déclarer uniquement quand ils sont malades, ou est-ce que vous pensez qu'il y aura des abus?
Ah, il y a 30 ans, j'aurais fait confiance, mais en vieillissant, je deviens misanthrope et je fais de moins en moins confiance aux gens. Donc non, c'est une erreur. C'est une erreur. Bien entendu qu'il y a des gens...
Mais si la Sécu ne paye pas, en fait, en vrai, c'est pas notre problème.
Mais j'ai beaucoup aimé la présentation de Rémi, comme toujours. C'est qu'on voit vraiment le vice caché dans cette histoire. Finalement, ce sont les bons salariés qui sont vraiment malades, qui vont être sanctionnés à la fin.
Oui, bien sûr.
Puisque les...
Ah oui, c'est vrai.
Ben oui, c'est
mais
ça.
T'as raison,
puisque,
t'as raison.
Voilà, parce que les entreprises... prenaient en charge les jours de carence.
La plupart
La plupart d'entre elles.
60%.
La plupart d'entre elles le prenaient. Oui. L'État va interdire. Et donc, pour des gens qui vont abuser en s'auto-déclarant malades, des gens qui sont malades une fois tous les 2 ans, une fois tous les 10 ans, et ben on va leur chanter leur.
Mais de toute façon, les gens qui étaient malades une fois tous les 10 ans, de toutes les manières, il y avait quand même un jour de carence, donc ça ne changera rien pour elles.
Oui, non, mais dans le privé, on parlait de 3 jours.
61% des entreprises du privé prennent en charge les 3 jours de carence.
Voilà, prise en charge.
Donc là, ça changera rien.
Parce que là, avec vos décrets, il sera interdit de rembourser ces jours de carence.
Sauf si tu passes par un médecin. Et ben voilà, donc si t'es vraiment malade, ça changera rien en fait.
Attends, sauf si tu passes par un médecin, pas forcément. Ah non. C'est qu'aujourd'hui, tu passes par un médecin, les jours de carence sont pris en charge par l'entreprise. Et là, ça va être. Les jours de carence ne pourront plus être remboursés par l'entreprise. C'est bien ce qu'a expliqué Rémi.
Si tu t'auto-déclares. Sinon, si tu vas chez le médecin, il n'y a pas de problème.
Tu ne seras pas obligé de t'auto-déclarer.
C'est la porte ouverte, effectivement.
Tu comprends. Mais moi, on l'a vu tellement de fois. Quand on commence à perdre un droit, en général, il y en a un autre qu'on perd juste derrière. Donc, ça, c'est vraiment le monde moderne. Je déteste ce monde qui est en train de, petit à petit, sous couvert de jolies choses en train de détricoter notre système social. Et puis plein de gens applaudissent en disant ouais, c'est génial.
Et est-ce qu'il faut faire confiance aux gens, Patrick Gaillard, ou est-ce que c'est effectivement la porte au fait qu'on ne rembourse plus aussi bien les arrêts maladie?
Moi, je pense qu'il faut faire confiance aux gens. Il faut arrêter avec cette image des salariés qui sont nécessairement des fainéants, qui ont juste hâte de passer une journée sous la couette, à regarder Netflix, etc. Les gens, quand ils font un travail qui ont du sens, qui est important pour eux, qui leur donne de la dignité, ils y vont avec plaisir. Ça arrime à la société, en fait. Ça nous donne juste un lien avec les autres. Donc, premièrement. Et ensuite, on ne parle pas du présentéisme, qui est le pendant de l'absentéisme. En fait, c'est de tous les gens qui vont travailler, soit parce qu'il y a une espèce de contrainte non dite de l'employeur, ou alors ils se mettent une contrainte à eux-mêmes d'aller travailler alors même qu'ils sont malades, et ça coûte tous les ans aux entreprises entre 12 à 25 milliards d'euros, le présentéisme. Donc ça veut dire le fait d'aller au travail alors qu'on est malade, parce qu'on peut contaminer d'autres salariés, d'autres collègues. Donc ça veut dire plus de personnes malades, donc un coût pour l'entreprise. Ça peut vouloir dire aussi une aggravation de son état et donc un congé maladie plus tard, ultérieur plus long. Et en vrai, c'est un vrai coût, c'est chiffré 12 à 25 milliards par an.
Le coût que ça représenterait si ces gens restaient chez eux pour la sécurité sociale?
Parce comment
que
ça
c'est, ouais, c'est un coût pour l'entreprise parce qu'on contamine les gens. Ouais. Enfin, des gens qui vont avec le nez qui coule, qui vont bosser, j'en connais plein.
Oui.
Est-ce qu'on chiffrerait, on est capable de chiffrer ce que ça coûterait à la sécurité sociale si ces mêmes personnes, pour ne pas contaminer leurs petits camarades, restaient chez eux avec ton système?
Bah, par exemple, si c'est juste le nez qui coule, etc., c'est à peu près 2 ou 3 jours d'arrêt, donc ce ne serait pas pris en charge par la sécurité sociale.
Ça,
donc,
non, pas j'ai eu le Covid il y a quelques mois, je suis allée travailler. Ouais. Et j'ai prévenu tout le monde, j'ai dit bah, j'ai le Covid.
Un masque.
On a mis des pessigas, je suis allée travailler avec le masque.
Après, chacun fait comme il peut.
Mais en fait, bah oui, j'étais pas au top de ma forme. Mm. Mais bon, je suis quand même allée bosser. Je pouvais aller bosser. Tu vois.
Oui, mais par exemple, on ne sait pas toujours les maladies parfois non qui se voient pas. Il y a des handicaps invisibles des autres. Et parfois, il y a des, par exemple, le Covid. On sait qu'il y a des gens.
En fait, non, mais c'est quelqu'un qui a très mal au dos, c'est pas pareil. Mais un nez qui coule, tu peux aller bosser.
Oui, mais du coup, ça remet la responsabilité avec la crème. Oui, mais justement, ça remet la responsabilité à l'individu, et il sait en fait s'il a des collègues à risque. C'est quoi? Il peut jauger aussi son état. Et moi, je pense vraiment qu'on peut faire confiance aux gens sur ce.
Ouais. Principe. En fait, t'as aussi des gens qui vont prendre un arrêt pour un nez qui coule, et d'autres qui vont attendre d'avoir une double fracture pour prendre un arrêt. C'est ça aussi.
Oui, mais aujourd'hui, il y a même des gens qui prennent pas d'arrêt parce qu'ils ont peur de prendre un arrêt alors qu'ils sont vraiment malades et qu'ils feraient mieux de rester chez eux et pas contaminer les autres.
Il y a des gens qui estiment. Qui ont envie d'aller au boulot. Bah c'est comme le télétravail, il y a plein de gens. Moi, je suis comme ça. Je n'aime pas le télétravail. Moi, je préfère venir au boulot, me mélanger avec les autres, rencontrer Mathilde. Et voilà. Et puis, voilà.
Enchanté.
Non, mais c'est vrai, quoi. Je veux dire, toujours présenté. Et puis, il y a des jours, je n'ai pas envie de venir. Je fais un métier que j'adore. Mais il y a des jours, j'ai moins envie de venir. Oui, bah, et je viens quand même.
Oui. Bah, tu pourras dire que t'as mal à la tête.
Oui, mais.
Je voudrais juste qu'on prenne en ligne David. David, il est médecin, justement, à Paris, médecin généraliste. Bonjour, David.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, on est heureux d'avoir un médecin avec nous qui va nous donner son avis. Est-ce que c'est bien, justement, cette autodéclaration des arrêts maladie, ou est-ce que c'est risqué?
C'est-à-dire que nous, c'était une demande qui était faite par une grande partie de la profession depuis plusieurs années.
D'accord.
En réalité, qui a toujours été refusée en réalité par le MEDEF et par les autres organisations patronales, l'autre dont je ne me souviens plus du nom. Mais c'était, oui, une demande qui venait de notre côté, qui a d'ailleurs été reprise dans un rapport récemment du monsieur Albertini, qui était ancien directeur de la Caisse primaire d'assurance de Paris, et un autre collègue, docteur Franzoni, sur une mission flash demandé à l'époque pour trouver des solutions pour améliorer l'accessibilité justement des médecins, en particulier généralistes, en premier recours. Et c'était une mesure phare qui est demandée, qui est assez consensuelle pour la profession. Pourquoi?
Donc vous êtes pour alors?
Alors moi je suis totalement pour, j'ai entendu là depuis tout à l'heure tous les arguments, et qui sont tous justes, hein, d'un côté comme de l'autre. Il y en a un qui est quand même qu'il y a beaucoup de gens qu'on voit venir sur nos consultations d'urgence, ce qu'on appelle maintenant des soins non programmés dans la journée, et qui finalement nous disent à la fin, enfin quand on leur pose la question franchement en fait, si vous aviez pu faire l'autodéclaration, bah, ils nous disent oui bien sûr que j'aurais pas eu besoin de venir chez vous pour une journée enfant malade, ou pour un arrêt juste pour aujourd'hui, ou juste pour hier, ou ce genre de choses. Parce que ils savent très bien que justement leur nez qui coule, etc., bah globalement c'était une histoire de 24-48 heures, et qu'ils n'étaient pas forcés d'aller déranger entre guillemets un médecin, d'aller prendre la place de quelqu'un d'autre qui aurait pu être plus malade, etc.
Et ça aurait mais pu ils auraient pu aller au boulot aussi.
Alors oui, ou alors il y a aussi autre chose qui a été évoquée tout à l'heure. Ou alors une téléconsultation, oui et non, parce que c'est vrai que la téléconsultation, bien sûr que je peux vous faire un arrêt de travail en téléconsultation, ça reste une consultation, ça reste du temps médical, ça reste une dépense pour l'assurance maladie, etc. Voilà. Donc c'est vrai que la téléconsultation, pour faire un arrêt de travail, dans ce cas-là, autant se télédéclarer, parce que moi je peux absolument pas vérifier en vous examinant que de toute façon vous avez bien ce que vous prétendez avoir. Et dans ce cas-là, on rentre effectivement dans le « ah bah, je suis pas allé parce que j'avais mal au ventre ». Bon, bah, très bien, je vous fais un arrêt parce que vous avez mal au ventre. Là, je suis tout à fait d'accord, mais autant que la personne, que le salarié lui-même puisse dire bah, écoutez, aujourd'hui, effectivement, je ne pouvais pas venir parce que raison X ou Y, et dans ces cas-là, moi, je fais confiance évidemment aux partenaires sociaux, aux accords de branche, etc., pour décider branche par branche ou employeur par employeur, combien de jours par an on a le droit, un petit peu comme ça se fait pour les journées enfants malades. Et comme ça, ça pourra permettre d'éviter de grosses dérives, parce qu'évidemment, si on peut se déclarer 256 jours par an, il y a des gens qui vont profiter. Mais si on peut, dans une limite de 48 heures avec réévaluation par le médecin, avec une limite de 5-6 jours par an, je ne sais pas exactement, ce n'est pas moi d'en décider, je pense que c'est une solution qui serait tout à fait raisonnable et pour laquelle on pourrait non seulement faire confiance aux gens et qui auraient une confiance accrue avec leurs employeurs, parce que je pense que c'est important aussi, il y aurait également une responsabilisation des gens face à leur santé, face à leur travail et face au système de santé qui est effectivement défaillant en ce moment et pour un certain nombre de temps encore à attendre. Je pense que c'est une disposition qui serait vertueuse depuis le début jusqu'à la fin. Alors après,
moi, j'aime bien l'idée de la réévaluation quand même par le médecin. C'est-à-dire que,
bien sûr,
s'auto-déclarer pour un arrêt de 5 jours, ça me paraît quand même un peu abusé.
Tout à l'heure, j'ai entendu que si on s'auto-déclarait, on ne pouvait absolument pas être rémunéré sur cette période-là. Alors évidemment, ça, ce serait un frein et ce serait quelque chose qui mettrait cette disposition à zéro, parce que là, dans ce cas-là, on aurait tout le monde qui viendrait nous voir justement pour obtenir la compensation financière. Ça changerait rien du tout. Non, je pense que il faut que les entreprises continuent à choisir si elles souhaitent ou pas pouvoir prendre en charge les jours de carence ou pas, voilà, selon l'organisation, selon leur taille, selon tout ce que vous voulez, etc. Et ça, aujourd'hui, c'est plutôt déjà bien fait. Donc, on peut tout à fait continuer sur les modalités et juste permettre, comme on disait, de faire une autodéclaration. Maintenant, à la question, est-ce qu'on risquerait de rater quelque chose? Je vais vous dire, les délais moyens de consultation étant ceux qu'on a aujourd'hui, moi, je pense que...
on rate déjà des trucs.
Voilà. Et en fait, les gens qui pourraient s'autodéclarer libéreraient des créneaux pour les gens qu'on aurait plus envie de voir, les gens qui s'estimeraient peut-être un peu trop malades, ou les gens qui nous auraient laissé un message et à qui on aurait dit oui, là, effectivement, on a peut-être envie de le voir, lui.
D'accord.
Ce genre de choses.
Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, David, pour toutes ces précisions. Et c'est vrai que vous étiez extrêmement convaincant. Merci d'avoir été avec nous. On a beaucoup de messages, en tout cas, sur l'appli RMC Rémi.
Oui, la préconisation, la recommandation faite par la Cour des comptes, de ces autodéclarations d'arrêt de travail ne convainc pas la plupart de ceux qui nous écrivent sur Direct Studio. Il y a Fred notamment qui nous écrit entre congé, RTT, maintenant arrêt maladie, auto-déclaré, quand les Français vont-ils se remettre au travail? C'est un peu la tendance des messages.
Ah, d'accord. Alors,
il y a une chose en Angleterre qui existe. Il y a un jour que tu peux prendre comme ça, en disant que t'es malade. En gros, t'as pris une biture la veille. Non mais c'est vraiment ça. Et tu n'as
besoin... J'aime bien cet exemple anglais.
Ah mais non, mais vraiment. Et tu suite, t'as le droit à un jour dans l'année, ça c'est rigolo, où tu n'as... Tu dis simplement, je suis pas bien aujourd'hui.
Pas bien, d'accord.
Sans justification, mais t'as le droit à un. Et en général, c'est grand, bah t'as fait la fête.
Alors, notre invité sur ce débat, et quel plaisir de le retrouver, c'est Benoît Serre, qui est vice-président de l'Association Nationale des DRH. Bonjour Benoît.
Bonjour, vous allez bien?
Ben oui, et vous Benoît?
Vous n'avez pas auto-déclaré de maladie, ça va?
Non, pas encore. Non, je ne me verrais pas faire ça. Franchement, je suis plutôt contre. Benoît Serre, justement, en tant que directeur des ressources humaines, est-ce que c'est une mauvaise chose pour les sociétés ou est-ce que c'est une bonne chose pour les entreprises?
Il y a plusieurs choses. C'est une mesure franchement bizarre.
Ah bon?
Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a trois mois, le maire nous a expliqué qu'il y avait trop d'arrêts maladie et qu'il fallait renforcer les contrôles. Et maintenant, on veut faire des arrêts maladie autodéclarés.
Oui, c'est vrai, dit comme ça, c'est vrai.
Déjà, j'ai un petit sujet de cohérence.
Oui. Après, ça, on l'a eu beaucoup avec Bruno Le Maire, si je peux me permettre.
Je vous laisse la responsabilité de vos propos, mais, la deuxième chose, c'est que un arrêt maladie, ça a été rappelé par le docteur précédent, c'est un acte médical.
Oui.
Donc, ce qu'il propose, c'est le démédicaliser. Tout ça pour faire face, comme il a très bien expliqué, à la pénurie de médecins, etc., etc. Mais enfin, ça me paraît un petit peu étonnant comme mesure. Parce que dans le rapport de la Cour des comptes, il y a une autre mesure qui est éventuellement envisagée, de ce que j'ai vu, qui est beaucoup plus intelligente, à mon avis, c'est d'étendre les gens qui peuvent déclarer un arrêt de travail court. Par exemple, les pharmaciens.
C'est ça.
Ouais. Et ce serait quand même beaucoup plus sain de ne pas démédicaliser, c'est pas une affaire de confiance, de ne pas démédicaliser un arrêt de travail. Effectivement, si en plus ça fait sauter le jour de carence, alors là, ça engouffrera les médecins plus qu'autre chose. Sachant que sur les jours de carence, vous avez pas mal d'entreprises, à commencer par l'État lui-même, qui n'a pas 3 jours de carence, qui a un jour de carence. Donc je vois mal comment ils vont, enfin s'ils arrivent à négocier 0 jour de carence pour ceux qui s'autodéclarent en maladie, même dans la fonction publique, je leur souhaite bonne chance. Mais sur le fond, ce qui me gêne un peu dans cette histoire, d'abord c'est l'incohérence. La deuxième chose, c'est le fait que ça reste un acte médical, c'est un arrêt de travail. Et donc on pourrait l'étendre aux infirmiers, aux pharmaciens, qui voulaient, pourquoi pas, si on n'a pas assez de médecins pour le faire. Je comprends très bien qu'encombrer les médecins pour un rhume, c'est un peu débile.
Il y a quand on a un rhume, on va au travail, quoi.
Oui, déjà, mais il y a un troisième élément qui est intéressant en lien avec ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a une étude qui montre que les gens qui sont en télétravail déposent moins d'arrêts de travail de courte durée que les autres.
Bah oui, parce qu'ils sont chez eux déjà.
Et oui, et donc ils disent, bon, j'ai la crève, je vais rester chez moi, mais je vais continuer à bosser. Donc c'est pour ça que je suis assez d'accord. Donc la mesure me paraît pour le moins curieuse, pas cohérente. Et puis le dernier point, c'est que je pense qu'il y a derrière cette mesure une autre idée, là pour le coup qui nous déplaît fortement, c'est de demander à l'entreprise de devenir le contrôleur de la réalité des arrêts de travail de ses propres collaborateurs. Mmh. Ah oui. Au moment où on est en train d'essayer de reconstruire des collectifs, d'avoir une de sens au travail, qu'on a déjà évoqué d'ailleurs sur cette antenne, je ne suis pas certain que demander à l'entreprise de se transformer en contrôleur des arrêts maladie auto-déclarés par leurs collaborateurs, autrement dit, officialiser l'heure du soupçon, ce soit une très bonne idée. Donc sincèrement, c'est une mesure qui est incohérente, c'est une mesure qui, à mon avis, est inefficace, et c'est enfin une mesure où il y a des solutions alternatives, parce qu'on a un problème de désert médical, c'est une certitude, en étendant, et par exemple, pourquoi ne pas dire à un pharmacien qu'il a le droit de proposer un arrêt de travail pour un rhume, une angine, enfin des trucs courts, quoi.
Mais parce que le pharmacien, il n'a pas fait l'étude de médecine.
C'est pas un médecin.
Mais oui, et la personne qui autodéclare son angine.
Ah non, vous avez raison.
Encore moins.
Donc, voilà. Souvent, on va voir son pharmacien pour un petit conseil médical. Bah, il vous donne des médicaments.
Oui, mais enfin, dans ces cas-là, autant aller voir. Aujourd'hui, tu as des infirmières qui sont hautement qualifiées, autant pouvoir aller voir des infirmières, tu vois.
Par exemple.
Oui. Infirmière, moi j'aime beaucoup l'idée.
Mais juste, Benoît Serre, vous qui connaissez bien le monde de l'entreprise, est-ce que vous pensez que s'il y avait l'autodéclaration, il y aurait beaucoup d'abus?
C'est difficile à dire. Je pense que ça, on pourrait être confronté, non pas par défaut de confiance vis-à-vis des gens, mais les gens sont pragmatiques. Vous savez que l'attente de la liberté d'organisation de travail, elle est très forte. Et donc, on pourrait être confronté non pas à des abus, mais à des gens qui ont un rhume le vendredi quand il fait beau.
Oui, ils auraient moins de rhume le mardi quand il fait froid, c'est ça que vous voulez dire. Voilà, oui. Je l'ai.
Le jeudi, parce que le vendredi, ils sont en télétravail.
Alors, mettons le lundi, du coup, dans ce cas.
Bon, ben voilà. Merci beaucoup, Benoît Serre, de nous avoir donné votre point de vue sur ces auto-déclarations d'arrêt maladie. On va terminer avec Erwan, qui s'appelle de Saint-Géron, dans le Morbihan. Bonjour, Erwan.
Bonjour Estelle.
Bonjour. Erwan, vous êtes responsable d'une agence commerciale dans le bâtiment et vous vouliez nous donner votre avis sur ce sujet. Vous êtes pour ou vous êtes contre?
Alors bonjour à toute l'équipe déjà que j'adore. Je suis RMC depuis 2004. Donc,
voilà. On a 20 ans, voilà.
Alors moi, en fait, je suis contre complètement parce que il y a 2 mois, j'avais une petite fièvre, des ganglions. Il y avait cette loi qui était promulguée, j'aurais pu prendre un petit arrêt de travail. Mm-hmm. Mais en fait, non, j'étais chez mon médecin. Et il m'a en fait ausculté, fait une prise de sang. Et puis, bah, résultat, petit cancer.
Ah mince.
Voilà. Donc, si je n'avais pas été chez le médecin...
Et ça veut dire qu'il l'a finalement diagnostiqué précocement, alors que si vous aviez attendu chez vous et vous étiez dit tiens là, je vais prendre deux jours de congé, après ça va un petit peu mieux et tout, et là, ça aurait été diagnostiqué plus tard. Voilà. En fait.
Et 2 jours je retourne au travail et puis je continue à être fatigué un petit peu, mais bon je me dis oh, c'est pas grave, un petit coup de fatigue. Mais non, il m'a diagnostiqué heureusement c'est bénin. Mais c'est bien soigné. Mais bon, voilà, c'est pour ça que je dis non. Cette loi, il faut pas la faire parce que en fait, il faut des professionnels, des gens qui sont capables déjà d'analyser des analyses de sang parce que c'est grâce à l'analyse de sang que
ils ont découvert. Et même d'analyser des symptômes, tout simplement. Voilà.
Ils ont découvert une petite tumeur. Bon, ils ont dit, ben, voilà, c'est pris à temps, on va pouvoir vous opérer. Là, je suis en arrêt de travail, mais c'est très bien.
Heureusement pour vous, en tout cas, qu'il y a eu un médecin et que vous êtes allé voir le médecin pour avoir cet arrêt de travail. Merci beaucoup, Erwan, pour ce témoignage qui est effectivement très très important. Et le problème, c'est qu'aussi vous allez avoir des gens qui vont aller sur Internet et qui vont aussi, parce que Internet, vous avez mal au nez, vous avez un cancer,
donc voilà,
et qui vont surinterpréter aussi les symptômes. Donc le mieux, c'est peut-être quand même d'aller voir finalement.
Un professionnel
qui sait de quoi il parle. Et effectivement, c'est comme l'automédication. On dit sans arrêt qu'il faut pas le faire, mais là, on pourra s'autodéclarer malade. Donc, c'est vrai qu'il y a une petite incohérence quand même dans tout ça. En tout cas, est-ce que ça a convaincu nos auditeurs et nos téléspectateurs, Rémi?
Bon, ça n'a pas vraiment convaincu. Hein. Ah oui. 66% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux estiment que ce serait une mauvaise idée.
RMC, midi 15h, Estelle Midi. Bonjour, c'est Apolline.
RMC, Apolline Matin.
Vous voulez une matinale où on vous parle de vos préoccupations, où on vous parle de pouvoir d'achat, de sécurité, d'économie? Vous voulez qu'on vous accompagne, vous voulez qu'on vous écoute, vous voulez des réponses sans concession à toutes les questions que vous vous posez, et puis vous voulez vous marrer? Ben, ne cherchez plus. On est là avec toute l'équipe, avec Charles, avec Manu, avec Nicolas, avec Amélie, avec Arnaud, et avec vous au 32-16. Alors à tout à l'heure, 6h30, 9h pour Apolline Matin.
Ce week-end, à l'Hippodrome d'Auteuil, c'est le Grand Steeplechase de Paris avec RMC. Assistez à la plus spectaculaire des courses d'obstacles de l'année. Prenez vite vos places sur francegallo-live.com. Le Grand Steeplechase de Paris, ce week-end avec RMC. À chaque obstacle, c'est votre cœur qui bondira. RMC.fr et appli RMC.
RMC en direct, partout, tout le temps.
Toute la semaine, dès 15h sur RMC, retrouvez l'équipe la plus déjantée de la radio avec Éric Dimeco, l'ancien fou.
Oui, voilà. Alors, il y a Dimeco, il y a Charvet, il y a Stephen, il y a Bartoli, il y a Higuain, il y a Pierrot. Venez vous marrer, parler de sport avec nous dans le Super Moscato Show. Voilà, ça c'est efficace et présente la graine.
Mais Vincent,
il n'y a pas de mais.
Vincent.
Alors à tout à l'heure.
Vincent, t'as oublié l'heure.
Je vais pas faire tout ton travail non plus, feignasse.
Le Super Moscato Show, du lundi au vendredi, 15h-18h, sur RMC. RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff. RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on va commencer tout de suite avec un extrait des Grandes Gueules ce matin. Manger dans un fast-food devient-il trop cher avec l'inflation généralisée des prix de l'alimentation et de l'énergie? Les prix des menus dans les fast-foods sont devenus de plus en plus chers et deviennent inaccessibles pour de nombreuses personnes. Un constat que fait également le cheminot DGG Bruno Poncet.
Je travaillais sur la route à une époque et en fait t'avais le menu ouvrier. C'est-à-dire que t'allais dans des routiers ou dans des restaurants, t'avais le menu ouvrier et t'étais en dessous de 10 balles. Aujourd'hui, le menu ouvrier, t'es pas en dessous de 15 et même t'es au-dessus de entre 15 et 20.
C'est ça.
Et sauf que ton ticket restaurant, on te fait un ticket à 9 balles, donc déjà tu peux pas le payer.
Je suis d'accord.
Et puis deuxièmement, en fait, aujourd'hui, t'as plus de menu ouvrier. Moi j'étais en Espagne c'était 2013. Et en fait, t'avais des menus ouvriers et t'étais à 6-7 balles, tu vois. Et nous en France, ça, pour trouver un truc à 6-7 balles, mais même à McDo, même si tu prends un menu, t'es fini.
Le fast-food devient-il trop cher, Thierry Moreau? Est-ce qu'il faut s'en réjouir? Parce que finalement, on n'arrête pas de dire que c'est pas bien de manger dans les fast-food.
Avant ça, il faut expliquer la stratégie commerciale de ces gros groupes. C'est-à-dire qu'ils ont des prix d'appel avec un premier sandwich ou un premier truc qui est...
Ouais, enfin, en deux bouchées, tu l'as fini.
Ridicule, ok. Oui, mais c'est un prix d'appel. Ouais. Pour faire venir les gens qui ensuite consomment beaucoup plus. Donc, ils payent et en plus, ils mangent mal. Donc, je pense que c'est pas une très très bonne nouvelle.
Mathilde Caillard, militante écologiste, vous allez au fast-food ou pas du tout?
Non. Oui, sans, j'y vais pas.
Et vous, les fast-foods, c'est le mal ou au contraire, est-ce qu'il faut quand même essayer de continuer à avoir des prix très bas?
Ah bah, y a quelques petits soucis, que ce soit en termes de conditions de travail, provenance des aliments, déforestation importée, enfin plein de problèmes qui sont. Et aussi usage du plastique. Hein, on sait qu'il y a une coalition des fast-foods au niveau européen pour empêcher des réglementations ambitieuses sur la baisse d'utilisation des plastiques dans l'alimentation à emporter. Donc bon, voilà, je vais pas promouvoir les fast-foods. Après, ça rejoint quand même un problème qui est hyper important et qui concerne toutes et tous, c'est quand même l'inflation des prix alimentaires et en général l'inflation du coût du prix de la vie, quoi. Et ça, c'est un vrai sujet. On peut pas juste se dire, ah bah super, les gens iront pas au fast-food. Il faut quand même que les gens puissent se nourrir correctement. Et en fait, si les prix augmentent partout, si les prix augmentent partout, y compris au supermarché, etc., en plus on prend plus le temps de s'alimenter correctement, bah en fait c'est un problème général. Donc on peut pas juste dire, ah bah tant mieux, les fast-food ferment, les gens mangeront ailleurs.
Les prix qui augmentent dans les fast-food, c'est une bonne ou mauvaise nouvelle, Fred Hermel?
Je trouve que c'est une bonne nouvelle parce que moi j'aime beaucoup les hamburgers. Je les fais moi-même. Moi ça me revient à 3,50.
Oui.
Viande française, hein. Viande française. Mon boucher du coin.
Au McDo aussi elle est française la viande.
Oui oui enfin.
Bah si, au McDo elle est française la viande, il y a pas de souci.
C'est mon boucher, moi je peux.
D'accord.
Dire. Moi c'est de la viande française.
Oui. Et du blé français également. Voilà, voilà. On nique beaucoup là-dessus.
D'accord.
Hein.
Oui mais alors moi je te dis, moi ça me coûte 3,50€.
Oui.
Avec un super hamburger, c'est pas le petit sandwich, un truc.
Mais t'as pas une boisson médium et des frites.
Sûr que si. Mais les frites ça me coûte 1€.
Il est en train de nous inviter chez lui pour vous faire son hamburger.
Bah non, tu fais chauffer les frites surgelées quoi.
Mais bien sûr que non. Mais ça prend 5 minutes. Moi, j'ai une.
Ça prend pas 5 minutes de faire des soupes soi-même, mais n'importe quoi.
On veut voir sur pièce, on veut voir sur pièce, on veut être invité.
5 minutes à couper.
Bah, et après, il faut les faire chauffer.
Mais c'est simple, c'est 8 minutes de cuisson, tu fais reposer.
Bah, c'est pas 5 minutes déjà.
Et tu remets 2 minutes à 180.
Oui, on est déjà à 15 minutes. C'est un tuto recette.
Toi tout seul, si vous êtes 14 12 à la maison, quand on va venir.
La prochaine fois que je t'invite, tu vas, je te ferai un gros plat de frites. Mais ça ne coûte rien. Bonjour, j'achète 3 grosses pommes de terre de beach.
Oui.
Et des frites, j'en ai eu pour 1 euro. Et il y avait quoi faire manger
non, mais excuse-moi, non mais d'accord, mais enfin, les ados, pardon, mais moi, vraiment, j'ai un gamin qui a 16 ans, ça m'étonnerait qu'il aille se faire des frites le midi alors qu'il n'a qu'une heure pour manger.
Oui.
Bah non, il va aller au McDo. Oui, et la dernière fois, d'ailleurs, il m'a demandé de l'argent pour aller au McDo, bon, une fois de temps en temps, mais. Et donc, je lui ai donné 8 euros, enfin, moi, je pensais que c'était Lyon. Il m'a regardé, un air de pitié, et il m'a dit, on n'est plus à ton époque. Bon, bah, et c'est vrai que. Moi, j'ai l'impression qu'à mon époque, pour 8 euros, on pouvait racheter les murs du McDo, quoi, carrément, quoi. Et bah là, non. Là, tu peux plus, quoi.
Mais il faut expliquer aux gens.
Les gens le savent.
Quand on dit aux gens, bah ouais, mais ça coûte moins cher là-bas, ça coûte cher de se nourrir, etc. Je suis désolé. Moi, je te fais un menu comme au McDo avec tout, avec que de bons produits.
Mais d'accord. Et tu vas passer 3 jours. Bah voilà.
Je suis désolé, Fred, mais tu méconnais un truc, c'est qu'il y a des gens qui aiment bien, et pas du tout, moi, j'y vais jamais, mais qui aiment la sauce McDo, qui aiment le Big Mac.
Parce qu'il y a plein de sucre. Il y a plein de sucre.
C'est excellent. Attends.
Mais excuse-moi, tu prends une bonne mayonnaise.
Mais rien à voir.
Tu mélanges,
etc. Tu ne peux pas mettre une mayonnaise dans ton burger, mais qui fait ça? Mais non.
Mais
si,
mais une vraie mayonnaise.
Mais il faut une sauce soit Big Mac, soit un petit Royal de luxe, une petite sauce poivre.
Après,
quoi.
Toi, pour tes frites, moi j'achète la sauce samouraï, tu la trouves à Mora, au supermarché, la sauce samouraï, comme à Bollard.
Ah non, mais moi je rajoute de la sauce piquante dans ma mayonnaise, mais après c'est autre chose.
Non, mais arrêtez. Bon. De toute façon, c'est simple, pour 3-5 ans, t'as un super hamburger chez toi avec des frites.
D'accord, mais encore une fois, un ado de 14 ans va pas aller cuisiner le midi.
Mais il peut le faire.
Mais non, il peut pas le faire, non.
Mais je parle pas de midi, mais le week-end, au McDo, tu fais ça avec tes enfants.
Les amis, si vous venez à la maison, je vais vous faire des hamburgers. Les mômes, ils se barrent en courant.
Mais les hamburgers sont meilleurs.
Mais bien sûr.
Ils s'en foutent, les gosses. Mais ils veulent pas venir chez toi manger un hamburger. Ils veulent aller au McDo ou au Burger King. Ils n'ont pas envie d'avoir un apron avec leur assiette. Et ils mangent pas d'hamburger avec des couverts.
Il y a pas d'apron, c'est fou partout.
Ah là là, mon Dieu.
Ah là là. Bon, écoute, la prochaine fois que tu
vas manger un hamburger. Oui, d'accord. Charles Matin, ce matin sur RMC, êtes-vous un acheteur compulsif de babioles? Avec le développement des magasins discount de décoration, les Français deviennent de plus en plus adeptes des babioles qui ne servent parfois à rien, enfin souvent à rien d'ailleurs. Une surconsommation que dénoncent les associations de défense de l'écologie, comme nous l'expliquait ce matin sur RMC Emmanuel Le Chypre.
Vous connaissiez la fast fashion, et bien voici maintenant la fast déco. La fast déco, c'est le renouvellement rapide des collections, la multiplication des éditions limitées, le développement d'une multitude de petits éléments de décoration pour Noël, pour Pâques. C'est l'association Zero Waste qui pointe dans son rapport publié hier tous les effets pervers de cette surconsommation. Le nombre de déchets d'ameublement a doublé. Depuis 2014, il y a surconsommation de bois et puis un coût social évidemment parce que quand on vous vend un canapé lit pour 100 euros, vous voyez, on se doute bien que ça n'a pas pu être fait dans des conditions sociales aux standards occidentaux.
Mathilde Caillard, est-ce que vous êtes du genre à acheter des babioles ou pas du tout?
Moi, j'achète beaucoup d'occasion.
D'accord. Des babioles d'occasion?
Ouais. Ouais, carrément. Ouais. Bah, en vrai, dans tout ce qui est Emmaüs, Le Bon Coin, si on veut le faire en ligne et qu'on veut pas se rendre directement en magasin, il y a vraiment moyen de trouver des super perles. Même si on est un peu collectionneur ou collectionneuse, on va trouver des pièces d'exception.
Fait en Chine dans des conditions pas terribles.
Mais non, pas nécessairement. Ouais, pas nécessairement.
Livré après.
Ou alors les vides-greniers, les brocantes. Et on peut vraiment trouver des objets de qualité qui durent dans le temps et qui sont superbes et pour meubler chez
nous. Alors, c'est pas ce que j'appelle une babiole.
C'est pas les babioles.
Pour moi, les babioles, c'est les trucs que t'achètes à Judifi, à Normal, à Action, tu vois, le petit truc dont tu n'as aucun besoin.
Tout à un euro aussi.
Et tout d'un coup, tu te dis, oh, c'est il y a une petite lampe solaire, ça irait super bien sur mon balcon. Bon, c'est alors que tu n'as pas besoin de cette lampe solaire.
Mais non. En vrai, écumez les Emmaüs et les brocantes, vous trouvez aussi des babioles. Hein. Il y a vraiment de tout.
Ah non, mais les brocantes. Non, mais sur les brocantes, c'est vachement bien.
Oh, il y a plein de babioles aussi.
C'est pas ce que j'appelle des babioles.
Ah non, c'est pas des babioles. Non, mais les babioles, il y a plein de trucs. Il y a un truc un peu. Il y a beaucoup de magasins nordiques. Comme ça, tu sais, je crois que c'est suédois.
Sostengren.
Ah, Sostengren. Sostengren.
Sostengren,
Sostengren. C'est vrai que c'est attirant, des couleurs et tout. Mais c'est des trucs que tu les achètes, tu les mets chez toi, tu essayes de les monter, puis après, tu les jettes à la poubelle, quoi. Parce que c'est. Voilà, c'est. Non. Ce genre de truc, moi, je vais plus. Et là, mais il y en a un autre aussi.
Ikea.
Il y a Normal. Normal, Ikea, Action, Jiffy.
Non, mais là,
il y en a quoi? Il y en a un autre, c'était. Tiger.
Quoi?
Ah, Tiger. Ah, ça n'existe pas ici en France. Si, si, Tiger. Ah non, mais ça, c'est plein de babioles, le truc qui n'ont rien
pas.
À voir, de la cuisine. Ça va de la cuisine aux toilettes ou des trucs. Mais plein de trucs comme ça qui coûtent maximum 5 euros.
Il y a Centre-Accord en Bretagne aussi.
Ah.
Le problème, c'est quand on va dans ces magasins-là, on y va pour acheter un truc éventuellement.
Tu vas pour acheter une bougie, t'en achètes 50, c'est pas cher.
Et voilà, c'est ça. Et on ressort avec un caddie, quoi.
Ouais, ouais, c'est
terrible. Pour
mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On va pas légiférer, on va pas supprimer Action.
Non, mais responsabiliser ce que tu dis, Mathilde, c'est responsabiliser un peu les gens, quoi.
Oui, mais sur le fait que les objets ont, en fait, il y a eu un coût pour le produire en termes de ressources, en termes de transport pour être acheminé jusqu'ici. Est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ce qui nous entoure? Il y a une profusion d'objets partout autour de nous. On peut aussi avoir une réflexion un peu
donc,
poussée là-dessus.
Donc la décroissance, tu prônes.
Bah la sobriété, hein. Moi je l'appelle comme ça, la sobriété.
Oui, mais le problème c'est que quand tu vas chez Action, c'est pas forcément les personnes les plus riches, hein, d'ailleurs, qui vont chez Action. Et souvent, donc c'est des personnes qui sont pas très aisées. On va dire, enfin il y a un petit peu de tout, mais il y a souvent ça. Et c'est vrai que parfois, bah tu te dis, bah tiens, je peux me faire plaisir pour 1 ou 2 euros. Tu n'as pas besoin de cet objet, mais à un moment, tu as tellement peu d'occasions de te faire plaisir dans la vie de tous les jours, parce que tout a augmenté, et que tu te dis, bah tiens, je vais m'acheter ce petit cadre photo, voilà, ça coûte 1 euro, bah ouais, c'est fait en Chine, mais en vrai, je préfère acheter ça que d'aller acheter un cadre en chaîne qui va me coûter 150 euros, quoi. Donc, en fait, tu as aussi ce petit plaisir, en fait, aujourd'hui, que tu ne peux avoir que dans ces magasins à bas prix, et finalement, bah, avec des, malheureusement, avec un plaisir qui vient souvent de Chine, quoi.
Oui, bien sûr. Après, la question des revenus et du coût de la vie, bah, on retrouve la même question. Mais aussi, si on continue d'appauvrir les gens, bah, effectivement, on leur donne pas un pouvoir d'achat nécessaire à pouvoir ensuite acheter des produits de qualité, quoi.
Allez, on va passer tout de suite à un extrait d'Apolline Matin. Ce matin sur RMC, faut-il un congé naissance plus court et mieux payé pour relancer la natalité en France? Emmanuel Macron propose de remplacer le congé parental par un congé de naissance pour les deux parents d'une durée de 3 mois et rémunéré à 50% du salaire. Mais c'est loin d'être suffisant selon les personnes concernées rencontrées par notre reporter Vincent Chevalier.
3 mois de congé, trop court selon Mathilde, maman depuis 2 semaines. Elle s'inquiète surtout pour la rentrée.
Sur septembre, on ne sait pas encore comment elle va être gardée, puisque du coup, la crèche où était la plus grande ferme pour travaux.
En effet, pour l'association Parents et Féministes, cette réforme ne sert à rien sans un investissement massif dans la petite enfance. Amandine Ancevitch, la cofondatrice.
Même si on a 6 mois, il reste encore 2 ans avant l'entrée à l'école. Qui a envie de soit sacrifier son autonomie professionnelle ou alors de faire un choix par défaut d'un mode de garde?
Faut-il un congé naissance plus court et mieux payé? Thierry Moreau, est-ce que ça servira à quelque chose?
Je ne suis pas sûr, parce que ça risque à nouveau d'être utilisé par des foyers dans lesquels ils peuvent se permettre qu'un des conjoints gagne 2 fois moins. Je pense que dans la plupart des ménages où ce congé pourrait être efficace, on ne peut pas se permettre de passer à 50% du salaire.
Mais c'est toujours mieux que 20%, tu vois.
Je suis d'accord, mais ça ne va concerner que la classe moyenne supérieure, comme d'habitude. Donc je pense que c'est une mesure qui est contre-intuitivement pas forcément la meilleure idée du monde.
Est-ce que ça peut permettre le réarmement démographique, ce genre de mesure, Mathilde Caillard?
De quoi d'allonger
Justement, de permettre en fait aux femmes, enfin aux mamans ou aux papas, d'être mieux payées durant leur congé parental, quoi.
Après, je pense que je sais pas si ça permet d'être le réarmement démographique. Je pense que le vrai souci, c'est aussi le congé alloué au second parent. Parce qu'en fait, aujourd'hui, aussi, un vrai frein à la maternité, c'est quand toute la charge, elle incombe à la femme, en majorité, hein, c'est quand même dans la majorité des situations. Et ensuite, ça empêche une reprise du travail plus tard, en tout cas, ça la rend difficile. Ou alors seulement une reprise à temps partiel. Et en fait, tant qu'on n'aura pas égalisé beaucoup plus la prise en charge des enfants et des tâches ménagères, ça crée un frein, en tout cas, l'envie potentiellement d'avoir un deuxième enfant.
Alors, l'État peut difficilement payer une nounou et une femme de ménage pendant les congés maternité, ça paraît compliqué.
Non, mais allonger le congé du second parent, c'est la demande de plein d'associations et de.
On travaille déjà plus en ce.
Ouais, mais alors, comment tu fais pour les sociétés, pour les entreprises?
Comment ça?
Là, aujourd'hui, tu as un congé, la maman prend son congé, puis après, le père peut prendre un congé parental. Donc, il n'y a pas de souci. Mais si tout d'un coup, tu permets aux deux parents d'avoir un congé plus grand.
Puis par deux, les
abattus. Là, il y a un moment où tu n'auras plus personne dans les sociétés, quoi.
Ouais. Moi, je veux bien payer, mais moi, j'ai pas d'enfant. Je veux bien payer des impôts pour un congé ma paternité, mais pas pour deux, quoi.
T'as un congé paternité aujourd'hui, hein?
Oui, non, mais
semaines,
pas en même temps. En même temps, enfin, parce que
là, mais là, si, aujourd'hui, tu l'as en même temps, mais
quand même, à l'arrivée.
Aujourd'hui, quand un homme a un enfant, il peut prendre 3 semaines de congé en même temps que son épouse.
Non, c'est 3 mois.
Oui,
là, la proposition, c'est 3 mois.
Non,
sur 3 semaines, je veux bien, mais là, sur 3 mois, il faut arrêter. Non, la question, mais il faut arrêter. Le problème des gens, c'est la gare. Des gens veulent bosser. Le problème, c'est que les gens n'ont personne pour faire. Il y a pas de place en crèche.
Non mais
il y a pas assez de gardes. Ce qu'il faut, si on veut vraiment réarmer démographiquement ce pays, sans que cela ait une influence négative sur l'emploi des femmes, parce que jusqu'ici, c'est encore les mères qui ont les enfants. Il faut absolument permettre aux femmes de reprendre leur activité professionnelle rapidement avec des solutions de garde.
Bah après, mais il y a pas de solution de garde aujourd'hui.
Mais c'est ça le problème. Il est là.
Il est pas que là.
Voilà, c'est tout.
Il est pas que là.
Des trucs,
non mais
aux demandes des gens.
Non mais il est pas que là. L'arrivée d'un enfant, ça peut être aussi un bouleversement dans la vie. On peut avoir envie de prendre le temps de l'accueillir correctement et pas juste de repartir au travail tout de suite. Ça peut être un désir et une envie de créer un lien avec cet être qui nous rejoint. Non mais voilà. Et en fait, ne serait-ce que il y a des demandes aussi de enfin pourquoi on considérait pas ça comme un travail, en fait, le fait que toute cette prise en charge de l'enfant.
La dernière fois qu'on a proposé ça, les femmes, que ce soit pas un travail, attention.
Si, tu peux avoir le revenu parental. C'est un travail non rémunéré.
Mais pourquoi une féministe dit ça, je comprends.
Ça s'appelle reconnaître le coût et l'apport pour la société tout entière du travail maternel.
Ça assigne la femme
pour le mère. Mais non, pour les deux. À parler d'ensauvagement de la société, de délinquance chez les jeunes. Mais peut-être que si les gamins, là, si t'avais des mamans qui pouvaient rester plus longtemps avec leurs gamins, pourquoi c'est du travail gratuit, etc. En Allemagne, je crois qu'on avait déjà fait ce sujet.
Trois ans.
Mais c'est les années. C'est les années qui comptent.
Mais moi, en tant que féministe, et je suis vraiment féministe, je pense que c'est assez. Et la femme a un rôle de mère, et ça veut dire payer la femme pour qu'elle reste
à la maison
à faire des enfants.
Mais moi, j'ai pas dit femme, j'ai dit le travail de maternité ou de paternité.